Aujourd'hui, nous allons partager ensemble une première réflexion dans une série de prédications sur diverses façons de faire alliance que nous avons sans doute en ce moment même à réfléchir, à repenser dans nos églises et ailleurs, dans tous les lieux où les hommes et les femmes discutent de leur présent pour pouvoir faire avancer les choses. Dans ce premier volet, qui se déroulera sur 4 prédications, il s'agit de l'alliance écologique, vous l'aurez compris en entendant et en participant à la première partie de ce culte. Une alliance écologique qui se déroule entre colonisation de la terre et adaptation, et peut-être je dirais communion. Je vous invite à entendre dans le prophète Ésaïe, au chapitre 58, les versets 11 à 12. Et nous retrouvons la suite du texte qui a fait la volonté du Seigneur dans ce culte. Le Seigneur te conduira constamment. Il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tout ton corps. Tu seras comme un jardin abreuvé, comme un point d'eau dont l'eau ne déçoit pas. Grâce à toi, on rebâtira sur les ruines d'autrefois. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui restaure les sentiers pour rendre la terre habitable. Je vous invite à chanter le cantique 170 dans les louanges et prières, les strophes 1 et 2. Je vous invite à la prière. Éternel, bénis notre parole, bénis notre pensée. Permets que nous puissions être clairvoyants au milieu de l'agitation, de la peur et de tous les discours qui se télescopent et provoque souvent la panique ou le désenchantement autour de nous. Permet que nous soyons capables de nous mettre à ton écoute, pour que tu puisses nous éclairer, et que tu permettes que nous ayons foi sans cesse en toi, mais aussi en l'homme, en l'être humain, pour que la vie continue et que nous soyons capables de la faire exister sans cesse par nos soins, par notre respect, peut-être aussi en acceptant d'agir autrement et parfois de laisser vivre simplement. Éternel, éclaire-nous. Amen. Cette variation sur « Comme un cerf altéré brame » nous introduit dans cette constatation « Il fait chaud sur notre terre ». Et ce n'est pas parce que le thermomètre indique des températures supportables après la canicule qu'il faut oublier cette réalité. Notre climat change et son réchauffement n'est pas une illusion. N'en déplaise aux climato-sceptiques ou aux climato-négationnistes qui aimeraient bien qu'on ignore ce fait. J'aurais pu ce matin vous lire un des deux récits d'origine de la Genèse et affirmer que le jardin d'Éden était la création idéale de Dieu que nous aurions détruite. J'aurais pu choisir un psaume louant le Créateur, les oiseaux du ciel et les poissons des mers, pour prêcher dessus et regretter que l'homme soit venu tout perturber et tout détruire. Mais cela aurait été trop facile et trop simpliste. J'ai préféré choisir le passage du prophète Ésaïe, qui parle de reconstruction et de terre habitable, car il s'agit bien de cela. Car l'enjeu n'est pas de regretter les temps d'avant comme si tout y était merveilleux. L'enjeu n'est pas non plus dans notre Église d'instrumentaliser les textes bibliques pour en faire des images d'épinal, où la nature serait toujours bonne et l'action humaine avec ses techniques, ses inventions et ses désirs de progrès serait toujours mauvaise. L'opposition entre nature et culture n'est pas l'enjeu ici. Un tel discours se paie de mots et ne peut mener à aucune action concrète pour atténuer les méfaits d'une colonisation avide de la terre par les hommes modernes dans notre époque récente. Dans la Bible, on loue aussi bien la beauté des espaces naturels que celle des jardins cultivés par l'homme. Les choses ne sont donc pas si simples. Il n'y a pas d'un côté la nature bonne et la civilisation mauvaise. N'oublions pas que le royaume de Dieu dans l'Apocalypse advient non pas sous la forme d'un espace naturel que l'homme n'aurait pas transformé, aurait laissé comme ça vivre par ses propres moyens, mais sous la forme d'une ville extraordinaire qui descend du ciel, la Jérusalem céleste, voulue par Dieu, mais sur le modèle des villes humaines. Enfin, n'oublions pas que les témoignages bibliques sont divers et que ce sont des témoignages humains et qu'ils n'ont pas toutes qu'ils n'ont pas pour fonction, pardon, de nous enfermer dans une vision idéale d'un monde perdu, mais de nous appeler à agir en cohérence avec une parole d'espérance pour le monde des contemporains qui lisent ces textes et donc pour nous, pour le monde d'aujourd'hui. Pour nous aider à réfléchir dans un contexte où l'on pourrait céder à la panique, les scientifiques de nombreux pays travaillent à nous donner des informations fiables et permettent ainsi de comprendre ce qui nous arrive pour que nous puissions mieux agir. Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe de travail du GIEC sur la base physique du changement climatique, déclare « Pour être efficace, l'action pour le climat doit être juste, inclusive et basée sur le partage des connaissances. » Il faut donc d'abord comprendre quel est le problème pour pouvoir agir au mieux et prendre conscience dans nos vies individuelles de ce que nous pouvons avoir comme levier pour changer les choses. Le GIEC, groupe gouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui a pour mission d'évaluer les données scientifiques portant sur le changement climatique et de proposer des orientations d'action, a rendu cette année encore son rapport. Ce sixième rapport du GIEC est résumé ainsi dans un résumé produit par le Muséum d'histoire naturelle. Ce rapport met en exergue les malheurs et catastrophes causés par le réchauffement climatique sur les personnes et les écosystèmes dans toutes les régions du monde. Ce réchauffement est dû à l'activité humaine et on ne peut plus désormais en douter. Les scientifiques alertent également sur l'augmentation continue du réchauffement climatique sur le temps court entre 2021 et 2040. Dans presque tous les scénarios envisagés, le réchauffement va continuer. L'accroissement de la température globale planétaire actuelle est de 1,1 degré et dépassera plus 1,5 degré au cours du XXIe siècle. C'est inévitable. Comme un gros navire déjà lancé, le réchauffement climatique ne peut pas s'arrêter d'un coup. Et même si la réaction internationale était rapide et efficace, il y aurait une inertie du phénomène. Plus le niveau de la température globale augmente, plus les risques de changements abrupts ou irréversibles augmentent aussi. Ces risques incluent des extinctions d'espèces ou la perte irréversible de la biodiversité des écosystèmes, comme les forêts, les récifs coralliens ou encore les écosystèmes des régions arctiques. Pour limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, sous ce plus 2 degrés, essayer d'approcher plus 1,5 degré, il faut une réduction drastique, rapide et durable des émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, les scientifiques sont certains que c'est la cause majeure et celle qu'il faut combattre. Quand on parle de 1,1 degré de réchauffement global planétaire, c'est réparti sur toute la planète et il faut préciser qu'en France, nous sommes déjà à plus de 2 degrés de réchauffement global sur toute la France. Et que dans nos villes, le réchauffement est encore plus élevé, évidemment. Les communautés les plus vulnérables, qui ont historiquement contribué le moins à ce réchauffement climatique actuel, en sont les plus affectées et de manière disproportionnée. Il y a donc un problème ici de justice. Dans ce bilan peu enthousiasmant, il apparaît plusieurs thèmes importants pour notre réflexion théologique et éthique. Tout d'abord, cette crise est mondiale et les populations du monde entier se retrouvent engagées dans le même défi, avec des moyens d'action différents selon les lieux et selon les régimes politiques souvent, mais c'est l'humanité tout entière qui est touchée. Pouvons-nous croire au salut universel et ignorer ce nouvel oïkouméné, cette nouvelle redéfinition de la terre habitée ? Ensuite, cette crise n'est pas une fatalité. Elle est identifiée et nous en sommes responsables. Il ne s'agit pas de quelque chose d'inconnu qui nous laisserait sans moyens d'action ou dans la sidération. Quand je dis nous, évidemment, ce sont les quelques générations qui nous ont précédés et où la température a augmenté énormément dans un temps court. Il ne s'agit donc pas de la même chose qu'une épidémie dont on ne comprendrait pas la source, comme nous avons vécu l'épidémie de la COVID-19. Il ne s'agit pas de rester sidéré, il s'agit de regarder exactement ce qui s'est passé, ce que nous pouvons faire. Pouvons-nous savoir tous ces éléments et agir comme si nous ne savions pas? De plus, tout en étant universel, cette crise fait ressortir l'injustice qui touche en premier lieu les plus vulnérables et place les moins précaires devant leurs responsabilités. Pouvons-nous nous déclarer enfants de Dieu sans entendre la question lancinante et biblique « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Enfin, cette crise nous oblige à reposer la question de notre rapport à la terre, à notre désir de puissance et à notre relation au divin. Sommes-nous condamnés comme êtres humains à agir en colonisateurs de la terre avec tout ce que cela comporte de consommation des biens qu'elle offre à notre convoitise, sans réfléchir, sans mesurer, sans regarder l'impact de notre action? Il y a quelque temps, le pasteur Stéphane Lavignotte était venu présenter son livre intitulé « L'écologie, champ de bataille théologique ». C'est tout naturellement que je suis retournée après avoir écouté les conférences sur le rapport du GIEC et avoir lu des résumés de ce rapport. Je suis retournée puiser dans sa réflexion pour poser le problème de façon théologique. Il y distingue de grands modèles théologiques sous-jacents à l'écologie qui peuvent nous éclairer pour notre réflexion. Le premier est un modèle contestataire qui s'érige contre l'idolâtrie et que l'on peut faire remonter à la théologie de Jean Calvin dans sa doctrine de l'usage des biens terrestres, c'est dans l'institution de la religion chrétienne, dans le livre 1. Selon Calvin, Dieu est à l'origine de tous les biens terrestres et il faut sans cesse lui rendre grâce pour ne pas l'oublier, ce qui risquerait de nous faire dévier vers des idoles. Calvin appelle le fidèle à savoir se tenir modérément en abondance et avoir bonne patience en pauvreté. On pourra se scandaliser du conservatisme contenu dans ses propos, mais on pourra aussi y reconnaître une critique des richesses excessives et d'une consommation excessive. L'autre auteur emblématique de la pensée anti-idolâtre est bien sûr Jacques Ellul, qui considère la technique, et il la met au singulier très souvent, non comme un moyen de l'homme pour créer, mais comme un véritable système qui aliène l'homme et prend le pas sur sa liberté. Dans les deux cas, Dieu joue le rôle de limite au désir de puissance de l'humanité, tenté sans cesse par cette idolâtrie qui fait qu'il en veut toujours plus, pour lui-même. Le second modèle théologique que discerne l'auteur de ce livre est celui où l'homme serait l'administrateur des biens de Dieu. On retrouve aussi ici une idée de Jean Calvin dans sa doctrine de l'usage des biens terrestres selon laquelle nous sommes des administrateurs des biens de Dieu. Dans la Bible, il est écrit en Genèse 1, 28 « Remplissez la terre, assujettissez-la ». Nous sommes alors appelés à seconder Dieu dans sa tâche. Chez un Bernard Charbonneau, l'humain est distinct du reste des vivants et cette séparation lui permet de désirer retrouver la nature. Paradoxalement, c'est en la voyant à l'extérieur de soi et différente qu'il aura envie de la retrouver. C'est par la figure de la campagne et du retour à la terre que cet auteur décrit le défi de l'homme des années 2000. Dans cette perspective, l'homme est à peine en dessous de Dieu et gère sa création. On parle même pour l'activité de l'homme de co-création. Le troisième modèle théologique est celui de la convivialité dans le livre de Stéphane Lavignotte, ou comment habiter le monde ensemble, vivant en relation dans une même dignité, une adelphité, pour dire de façon inclusive la fraternité. Ce troisième modèle n'est pas étranger non plus à Jean Calvin qui souligne l'arrivée de l'être humain après tous les autres vivants et qui devra vivre avec, mais on le trouve surtout développé dans les traditions monastiques où les textes bibliques évoquant la réconciliation entre les êtres vivants est mis en avant, notamment chez les franciscains avec saint François d'Assise. Comme par exemple, on trouve dans le prophète Ésaïe, le loup séjournera avec l'agneau. Vous avez là une image de réconciliation qui fait comprendre que l'idéal à rechercher est une cohabitation pacifique. Nous aurons l'occasion d'en reparler à propos de l'alliance avec les animaux dans une prochaine prédication. Le quatrième modèle est celui de la ruminante, comme dit Stéphane Lavignotte, et qui s'inspire aussi de l'institution de la religion chrétienne de Calvin, où Dieu veut que lorsque nous contemplons le spectacle de la nature, nous le fassions non pas légèrement pour les oublier aussitôt, mais en nous arrêtant longuement afin d'y penser et de les ruminer à bon escient, en en conservant un souvenir permanent. Parmi les nombreux auteurs concernés par ce modèle, on pourra citer Albert Schweitzer, qui écrit « Dans une pure volonté de vie », c'est le nom de son ouvrage en 1912, « Ce n'est que dans un long contact avec la nature animée qu'émerge l'idée que chaque être vivant est irremplaçable dans la chaîne de la vie. » Tous ces modèles que le pasteur Lavignotte définit comme des théologèmes ont leurs limites, soit parce qu'ils ne font que contester sans proposer autre chose, soit parce qu'il laisse croire que la volonté suffit à continuer l'œuvre d'un Dieu bon. Loin d'être la servante d'une providence divine, nous savons aujourd'hui que l'humanité est à l'origine de transformations de notre planète tellement importantes que l'idée des scientifiques Paul-Joseph Crutzen et Eugène Stürmer, selon laquelle l'homme aurait provoqué l'apparition d'une nouvelle ère géologique qu'on appelle l'Anthropocène, a fait son chemin. L'influence de l'humain sur la biosphère équivaut donc aujourd'hui à une force géologique, tellement les changements ont été brutaux et rapides. Il s'agit alors de se demander si ce n'est pas le mythe prométhéen qui domine plus que tous les modèles que nous avons énumérés ici. Dans le passage du livre d'Ésaïe, que nous avons lu ce matin ensemble, il est question de reconstruire sur des ruines après une grande crise, mais à condition de faire advenir la justice et de regarder l'autre comme un frère. Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. Le Seigneur te conduira constamment, il te rassasiera dans les lieux arides. La question n'est donc pas de savoir comment nous considérons la nature, comme si nous avions le loisir aujourd'hui de nous positionner par rapport à elle, comme si nous avions un échappatoire et une autre façon de nous poser avec elle. Mais il s'agit bien de nous y inclure. Nous faisons partie d'un écosystème et nous en sommes un des rouages. Le plus destructeur en ce moment, mais peut-être à l'avenir le plus fécond. Quelle communauté terrestre sommes-nous capables de vivre? C'est la question que nous renvoie la crise climatique que nous vivons et que nous traversons avec tous les acteurs de ce grand tout que nous appelons nature et qui est notre monde partagé. Beaucoup sont déjà embarqués dans l'arche d'alliance qui s'offre à nous et agissent à leur échelle, au niveau individuel ou de façon internationale, pour transformer les usages des biens terrestres, pour penser des alternatives à une consommation effrénée, pour sauvegarder des espaces et des espèces qui sont menacées d'extinction et pour imaginer des façons de gouverner qui privilégient le dialogue sur la concurrence. Toutes ces actions dans le monde sont autant d'espérance pour nous tous, autant de lieux où la communion humaine peut se faire et se vivre. La première communauté terrestre à créer est celle de la foi dans la capacité de l'homme à changer de comportement. Nous entendons trop de discours de défiance, de discours de désespoir. Il s'agit aujourd'hui d'espérer ensemble et en acte. C'est donc cette communauté-là qu'il nous faut créer, une communauté de croyants dans un avenir meilleur, et pas seulement pour nous, mais aussi pour le milieu dans lequel nous vivons. Notre foi chrétienne, qui place l'homme au cœur du salut, puisque c'est Jésus le Christ qui nous annonce le salut de Dieu, doit nous y pousser. Alors, loin de la peur et dans la foi, nous écrirons ensemble une nouvelle page de l'histoire de l'humanité et nous nous appellerons ceux qui réparent les brèches, ceux qui restaurent les sentiers pour rendre la terre habitable. Amen.